livre, des cahiers. Qu'est-ce qu'un métier à tisser? Déjà nos gones se sont taillées dans le bouquin de moissonnier. 70 heures par semaine, la Croix-Rousse tombe en paupière. Le piston claque à la migraine, brouillant les cris des révolutionnaires.
Biston clac, biston clac, biston clac, nous aimons la chanson française. Biston clac, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Biston clac, biston clac. Biston clac, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston clac, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston clac, biston clac, biston clac.
Le thème de notre émission de ce soir, les canuts de 1830 à 1834 en particulier, leur vie et leur révolte. Une émission pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir Maurice Moissonnier, et avec lequel donc nous parlerons de la vie des canuts et des événements qui ont marqué cette période. Tout de suite, une chanson qui n'est pas spécifiquement une chanson des canuts, mais qui a de bonnes raisons de figurer quand même là. C'est le Chant des ouvriers de Pierre Dupont, une chanson de 1846, donc une quinzaine d'années après la révolte des canuts. Une chanson qui parle des conditions de travail du monde ouvrier à cette époque-là, et puis un auteur, Pierre Dupont, qui était lyonnais. Il est né à Lyon en 1821 et il s'est installé à Paris qu'en 1842, donc il a vécu toute cette période de sa vie à Lyon. Un auteur qui était aussi un interprète, qui avait fait des chansons un petit peu bucoliques, et puis qui a élargi son champ d'inspiration pour donner dans le social. Et cette chanson donc a été le Chant des ouvriers, un petit peu l'hymne de la Révolution de 48, juste après, quoi. Voilà, nous l'écoutons dans la version de Rosalie Dubois, qui nous paraît la plus intéressante, la plus vive. Il en existe une autre aussi de Marc Jeret, qui est très belle. Le Chant des ouvriers, chanté par Rosalie Dubois, paroles et musique de Pierre Dupont.
Nous, dans la lampe le matin, au clairon du coq se rallume. Nous, tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour voir à la ronde que le canon se taise ou gronde. Vivons, vivons, vivons à l'indépendance du monde. Nos maigres échines, où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour voir à la ronde que le canon se taise ou gronde. Vivons, vivons, vivons à l'indépendance du monde. Mal vêtu, logé dans tes trous, sous les combles, dans les décombres, nous vivons avec les hiboux et les larrons amis des ombres. Cependant notre sang vermeil coule impétueux dans nos veines. Nous nous plairions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour voir la ronde, que le canon se taise ou gronde. Vivons, vivons, vivons en l'indépendance du monde. À chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre, en attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour voir la ronde, que le canon se taise ou fronde. Vivons, vivons, vivons en l'indépendance du monde.
C'était Rosalie Dubois et le chant des ouvriers qui reflète bien l'état d'esprit de l'époque. Voilà, nous avons donc avec nous Maurice Moissonnier et nous allons parler des canuts, à la fois de leur révolte, puisqu'ils ont une figure de précurseur en matière de lutte sociale au XIXe siècle, mais aussi de leur vie quotidienne, ces canuts qui, en 1830, étaient installés à Lyon, travaillaient déjà depuis de nombreuses années.
Absolument. On peut dater à peu près hein, le départ bon, des canuts, c'est 1536. François Ier qui donne des lettres patentes qui vont permettre le démarrage de cette activité. C'est malgré tout le 17e et le 18e où la poussée est, où s'installent réellement les canuts. Alors à cette époque-là, ils ne sont pratiquement pas sur la commune, sur la colline de la Croix-Rousse. Un peu quand même déjà monté de la Grande Côte qui est quand même le grand axe par la. Et bien entendu, c'est au XIXe siècle que Lyon alors s'affirme avec le développement, bien entendu, des transports, avec le développement déjà du commerce. Je ne dirais pas, comme on dit de nos jours, la mondialisation du commerce, mais c'est déjà l'européisation du commerce et peut-être aussi l'atlantisation du commerce avec le client américain. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que Lyon apparaît comme la grande ville, là c'est vraiment le centre de la production industrielle de la soie.
Des tissus.
Des tissus.
Parce que le fil, lui, était produit dans le massif Alors, central essentiellement.
Le fil, il est produit, bien sûr, dans surtout la vallée du Rhône, hein, massif central, mais la vallée du Rhône, enfin tout ce qui... Bon, jusqu'en Provence, très tôt, dès le XVIIe siècle, il y a tout un système de contrôle des échanges, d'ailleurs, qui s'établit, et de drainage de cette matière première. Alors, bien sûr, l'élevage du verre à soie devient une activité dont une partie de la population rurale, des populations rurales de la grande région lyonnaise, puis jusqu'en Provence, bénéficie, si je puis ainsi m'exprimer, parce que quelquefois ça donne place, ça laisse place évidemment à des conditions personnelles, individuelles, qui sont pas toujours très très reluisantes. Mais enfin, ça devient une ressource. Ça deviendra aussi une ressource avec l'exportation des métiers. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Une des raisons, c'est effectivement un souci des donneurs d'ouvrage, des marchands fabricants, de décongestionner une ville qui est devenue un peu trop explosive par l'accumulation de sa main-d'œuvre. Et d'une main-d'œuvre pas toujours contente, plutôt mécontente, on verra quand on examinera les conditions d'existence.
Une chose qui est sûre, c'est que le produit fini, le tissu de soie, il n'était pas destiné aux masses populaires.
Hein. Bon, absolument pas. Absolument pas. Il est destiné, justement, dans les grands marchés européens, aux classes favorisées, c'est évident. C'est d'ailleurs très significatif, quand il y a des difficultés économiques, on se tourne vers les puissants, vers la cour, pour les inciter à consommer davantage. En ce sens, d'ailleurs, il y a une certaine sensibilité, par exemple, du temps à la période de la monarchie, une certaine sensibilité aux périodes de deuil national durable à la suite de la mort des grandes de cette terre. Eh bien, ça provoque automatiquement une restriction considérable dans l'achat des étoffes chatoyantes de soie. Donc, c'est une des raisons, d'ailleurs, à cette époque-là, des nombreuses crises de cette industrie de la soie. Industrie bizarre, d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est une industrie qui va se développer sans donner naissance immédiatement à de grosses concentrations usinières. Il n'y a pas de concentration usinière, c'est une industrie tout à fait particulière. D'ailleurs, l'historien allemand de la classe ouvrière, Kocinski, parle de cette étrange classe ouvrière du lyonnaise. Oui. Alors, cette étrange classe ouvrière, c'est vrai, c'est une classe d'artisans, enfin, qui évolue plus exactement dans une structure artisanale.
Définir la manière dont ça fonctionne d'artisan. Avec les fabricants, ceux qu'on bien appelle sûr, les fabricants qui fabriquent rien.
Oui, alors, le grand problème, c'est ça, c'est que c'est un monde artisanal qui tombe entre les mains du grand commerce. Et à partir de ce moment-là, les règles qui régissent le libéralisme économique vont peser durement sur les travailleurs, sur ces artisans qui vont perdre leur liberté. Il y a une nostalgie d'ailleurs longtemps de cette liberté même formelle qu'ils avaient. L'insurrection de 1744, la première, est une insurrection de ces travailleurs pour récupérer le droit. Je répète, c'était déjà plus ou moins formel, le droit de vendre leur production directement. Or, il est bien évident que la bourgeoisie lyonnaise était évidemment consommatrice de ces soieries, mais compte tenu du développement de l'appareil productif, il est évident que c'était insuffisant. Et c'est à partir du moment, c'est parti des banquiers d'ailleurs, hein, des spécialistes du change, que cette conquête d'un marché européen très vaste, qui ont finalement dépossédé évidemment les travailleurs directement de l'exploitation de leur travail, et les avaient tombé sous une exploitation commerciale. Au départ, c'est une industrie dominée par le commerce, conditionnée et organisée les trois quarts du temps par le commerce.
Donc la structure, c'était ces fabricants qui étaient les commercialisateurs du produit au niveau de la France, donc qui faisaient travailler une multitude d'ateliers implantés, bon, beaucoup dans la Croix-Rousse, une multitude d'ateliers avec un chef d'atelier et 3-4 compagnons implantés par milliers dans des grands bâtiments d'où c'est...
Oui, c'était donc sur le plateau de la Croix-Rousse. Ça a été sur le plateau de la Croix-Rousse parce que le prix des denrées était moins élevé qu'en ville. Parce qu'au départ, au XVIe siècle et au XVIIe, au XVIIIe aussi, mais au XVIIIe déjà, la Croix-Rousse commence à être peuplée. C'est dans l'actuel centre de la ville, au nord de la place Bellecour, dans la Presqu'île, que se trouve une bonne partie des tisseurs, et puis alors surtout dans le Vieux-Lyon. Hein. Bon, alors dans le Vieux-Lyon, les montées du Vieux-Lyon sont aussi des refuges à canuts. Mais rapidement, il va y avoir une concentration qui est une concentration sur le plateau de la Croix-Rousse. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que le capitalisme dans son développement restructure complètement les villes. Il crée ses propres faubourgs.
Oui, en somme, c'était la zone industrielle.
Il crée son milieu, son centre de ville luxueux, avec les magasins, avec les banques, avec les sièges sociaux. Ça devient très éclatant à Lyon, évidemment, déjà sous la monarchie de Juillet. Et ça va justement être le début. Et puis, ça prendra une extension particulière encore sous le Second Empire. Et la ville se structure ainsi, n'est-ce pas, avec c'est son zoning social qui correspond à, somme toute, aux structures de l'économie qui est en train de se développer.
Alors, on va faire une pause musicale en écoutant des chansons qui sont issues d'un spectacle, Jacquard ou la chanson de la soie, c'était en 1984. Les paroles de ces chansons étaient de Dominique Voisin, les musiques de Michel Bernard, donc cette chanteuse bien connue et que nous apprécions. La première plage, c'est la chanson de l'apprentisseuse, interprétée par Béatrice Avoine.
Cette fille donc obéissance, tu dois. Rêve, rêve, ne rêve plus, ton cœur s'échappe dans la rue, va-t'en dans un nouveau corsage, ton cœur alors qu'être à l'ouvrage. Rêve, rêve, ne rêve point, doux Seigneur, viens ferme les poings, ma ligne de vie sur la corde, s'use va que le froid nous morde les doigts. Le fabricant maître d'ouvrage exige ma vertu s'engage. Si le meilleur de ta misère donne du travail à ton père, tu dois.
Chanson de l'apprentice par Béatrice Avoine sur des paroles de Dominique Voisin, musique Michel Bernard qui évoquait donc les conditions de vie des canuts auxquelles nous allons nous intéresser maintenant.
Oui, les conditions de vie. La structure, elle est très connue, tout au moins pour l'ensemble des Lyonnais. Il y a donc le chef d'atelier. Qu'est-ce que c'est que le chef d'atelier ? Souvent, d'ailleurs, on l'appelle au départ le maître ouvrier. Maître ouvrier, pourquoi ? Parce qu'il possède les moyens de production. Il peut posséder, évidemment, 1, 2, 3, 4, jusqu'à, dans certains cas, 10 ou 15 métiers à tisser. Mais c'est très rare. D'une façon générale, l'écrasante majorité des chefs d'atelier possèdent 2 ou 3 métiers, pas plus. On peut le vérifier d'une façon très simple, parce que le mode d'élection pour le Conseil des Prud'hommes. Conseil des Prud'hommes, soit dit en passant d'ailleurs, qui est fondé en 1806 par Napoléon, devant justement la masse des problèmes qui se posent pour la soierie, les conflits, les luttes qui entourent justement les intérêts de ces marchands fabricants qui ne fabriquent rien, et qui imposent à leurs travailleurs un certain nombre de charges avec des salaires qui sont des salaires très très faibles. Alors prenons par exemple le chef d'atelier. Le chef d'atelier, il a la responsabilité, quand il reçoit une commande, eh bien de préparer son métier. Ça prend une période extrêmement longue et c'est coûteux pour lui. De telle sorte que il est évident que ça ne lui est pas payé. Il reçoit une commande, il doit l'exécuter. Il doit donc faire les frais pour l'exécution de cette commande. C'est quelque chose de déjà une charge importante pour lui. Et puis deuxièmement, assez souvent, Les commandes qui ont été formulées sont pas toujours très fermes. Par exemple, prenons le cas, par exemple, d'une commande de mouchoir de soie ou de foulard de soie qui marche mal. Eh bien, les marchands fabricants s'arrogeaient le droit, très souvent, d'arrêter la commande. C'est-à-dire que il y avait une perturbation considérable dans l'organisation du travail et, effectivement, sur le plan financier. Toutes les charges, toutes les responsabilités de la production retombaient sur les chefs d'atelier, tandis que les marchands fabricants, eux, n'avaient que les aléas du commerce. Bon. Donc, et la possibilité pour eux, d'ailleurs, de reporter en période de crise leurs opérations commerciales sur d'autres choses. Tandis que là, on l'a dit tout à l'heure, c'est une industrie de luxe, c'est une industrie qui est une industrie sensible aux crises. Et les crises sont très nombreuses. Donc, nous avons là une industrie particulière, hein, qui est fondée sur la petite production, mais la petite production en concentration diffuse. Hein, c'est une formule, moi, que j'ai utilisée beaucoup dans mon livre, parce que je trouve que c'est la seule explication, n'est-ce pas, cette puissance industrielle de Lyon avec des quantités de petits ateliers, en concentration diffuse, mais extrêmement sensible aux crises. Concentration diffuse, pour moi, c'est pas seulement les ateliers, c'est les hommes. Et les hommes, ils échangent des idées. Et les hommes, ils se rencontrent. Et les hommes, ils sont capables de penser. Et c'est de là que naît aussi l'organisation. Bon, il y a donc les chefs d'atelier. Alors ce sont vraiment les artisans, mais les artisans dépendants, les artisans qui travaillent à façon essentiellement et qui ne sont plus maîtres véritablement ni du matériel qu'ils possèdent, ni du produit qu'ils vendent, enfin qu'ils réalisent. À côté de ça, il y a les compagnons. Parce que, bon, à partir du certain moment, je sais que, bon, on utilise parfois les femmes, on utilise parfois les enfants de la famille pour travailler. Mais ça n'est pas tout. Et quelquefois, bon, quand on a un peu plus d'ateliers, on emploie des compagnons. Alors les compagnons, c'est la population qui n'est pas fixe, tandis que vraiment les chefs d'atelier, eux, sont fixes. Ils constituent le fond, ils constituent l'ancrage. Mais ces compagnons sont beaucoup plus girovagues. Mais ils vivent aussi souvent avec la famille. Donc, il y a là un élément important. C'est ce qui va souder d'ailleurs souvent l'alliance des compagnons.
On a cette image des pièces, ces grandes pièces dans lesquelles il y avait le métier à tisser, avec la soupente derrière.
Avec la soupente. Donc, ici, c'est une vie qui est constamment occupée par le travail. Le travail est présent à tout moment. Je dirais même que l'espace est rongé par le travail. Parce que, justement, c'est évident que le chef d'atelier, il n'a pas intérêt à malgré tout louer, parce qu'il loue son espace. On a construit de grandes maisons pour les recevoir, mais c'est contre argent sonnant et trébuchant. Ce sont des propriétaires qui ont spéculé sur leur accueil. Et alors là, à partir de ce moment-là, le métier et les exigences de la production s'imposent dans la vie quotidienne. Par exemple, il faut éviter qu'il y ait trop de soleil, parce que ça mange les couleurs. Il faut éviter d'ouvrir les fenêtres, parce que la poussière, parce que il y a constamment la dictature de ce travail, des nécessités, des contraintes qui pèsent sur la vie quotidienne, et l'espace est très réduit.
La durée du travail qui est réglée par l'horaire de luminosité.
Absolument. C'est ce qui explique.
On se lève à l'aube, on arrête à la nuit.
La structure de ces grandes maisons tournées vers le sud, n'est-ce pas, où on pouvait prolonger. Et aussi, on tissait encore, et au 19e, à la lumière du chelut, c'est-à-dire d'une lampe à huile, qui parfumait en même temps. Hein. Il y avait ça. Et puis, avec les risques, d'ailleurs, de chute d'huile et d'abîmer les étoffes, qui étaient contrôlées, et le moindre défaut entraînait des réductions du prix convenu. Bon, alors, parallèlement à cela, il y a alors les apprentis, on vient d'entendre. Il y a les apprentis et surtout alors une quantité formidable d'auxiliaires de la production. Bon, c'est les ovalistes, ce sont les dévideuses, ce sont les femmes qui préparent les canettes, toute une série de choses, n'est-ce pas? Et on emploie beaucoup d'enfants. Jusqu'au début du 19e siècle, les enfants trouvés étaient souvent loués par les associations religieuses, par les congrégations religieuses qui accueillaient ces enfants trouvés ou abandonnés, et c'était souvent les enfants des ovalistes. Il y avait à l'Hôtel Dieu un endroit où on déposait les enfants et on les récupérait. C'était y compris organisé. Enfin, ça traduit quand même des conditions d'existence assez terribles. Hein, voilà donc si, les choses. Disons une chose, ces femmes, j'ai beaucoup travaillé sur des archives de police. Bon, elles ont manifesté à certains moments. Et certaines, au cours de manifestations, expliquaient, d'ailleurs, elles écrivent sous le Second Empire encore, une lettre, enfin une pétition qu'elles envoient à l'empereur en expliquant qu'avec les salaires qu'elles touchaient, il n'était pas possible de vivre et qu'elles étaient contraintes à se prostituer. Et c'est signé par plus d'une centaine de ces ovalistes, par exemple, pendant la grande grève des ovalistes de 1869. Donc ça montre un niveau de détresse terrible. Et alors, bien entendu, ponctué par des chômages. Parce que le chômage, c'est aussi, alors ça, la grande inquiétude. Et c'est de là, dans ces moments de renforcement de la misère, que surgissent alors les insurrections.
Eh bien, on va y venir, puisqu'on arrive bientôt à la moitié de notre temps d'émission, mais en intermède, nous allons écouter maintenant la chanson de la Façonnière, interprétée par Michel Bernard.
Homme tissant sous le comble étouffant la soie dorée et la satine, homme écoute la complainte du vent noirissant dans nos deux poitrines, et brille pour ta pauvre voisine. Femme, femme, ne te plains pas autant, le métier est là qui assure la flamme, le pain, le vin, le bon temps. Remettons-nous à la fassure, remettons-nous à la fassure. Ami, tu as mis mon cœur en prison, dans ton logis abri des chaînes. Ami, je souffre trop dans ta maison et j'aspire à la mort prochaine. Prie pour la pauvre tire-peine. Femme, ta langue trop amie des mots, pas pour rien, mon oreille est pleine. Femme, les retards sont les plus grands maux pour les prisonniers de la chaîne. Pour les prisonniers de la chaîne. Homme, tu trembles pour le fil cassé, pour la soie tachée d'huile vierge. Homme, tu trembles quand vient la pesée, l'homme n'est homme qu'à l'auberge. Il n'est que Dieu qui nous protège. Femme, regarde ton petit baillet, il n'a pas de goût au travail. Femme, tu en feras un émeutier, on le nourrira de mitraille. On le nourrira de mitraille. Il est 5 heures, le jour s'est levé, mais déjà j'attends sa lumière. Homme, le battant me pousse à rêver, prie pour la pauvre façonnière. Prie pour la pauvre façonnière.
Voilà, Michel Bernard nous parlait des conditions de vie et de travail des Canuts dans sa chanson de la Façonnière, donc musique composée par elle-même, paroles de Dominique Voisin. Voilà, et nous arrivons comme ça à la question de révolte des Canuts, peut-être plus particulièrement celle de 1830, où des événements politiques engendrent une révolte.
Alors voilà, effectivement, je disais tout à l'heure que je tiens beaucoup à cette forme de la formulation de concentration diffuse. Concentration diffuse des métiers, ça se traduit par une concentration humaine, par ses contacts, par ces gens qui ont des contacts importants, et quand les hommes ont des contacts, en général, ça stimule leur réflexion. Et bien entendu, les révoltes n'ont pu éclater que parce qu'il y avait justement, au départ, une organisation. C'est-à-dire l'originalité des révoltes, plus exactement, c'est qu'il y avait une organisation. Et que cette organisation a fait que c'était des révoltes qui ont toujours été orientées avec des bases précises et avec des revendications précises. Ce qui est pas, ce qui est le contraire un peu de la révolte aveugle. Alors, je voudrais rappeler quand même rapidement comment c'est apparu. C'est à la fin, justement, de la période de la Restauration, en 1827, que Pierre Charnier, un chef d'atelier, va avancer l'idée d'une organisation. Alors attention, c'est pas une organisation tellement révolutionnaire. Voilà ce qu'il disait, n'est-ce pas? Il disait, d'ailleurs, il prépare des statuts dans lesquels il est défendu, sous peine d'exclusion, de s'entendre jamais pour obtenir une augmentation de salaire, ce qu'il considérait, n'est-ce pas, comme illusoire ou éphémère. Bon, et Charnier veut une franc-maçonnerie ouvrière, neutre en politique, mais créée en opposition contre la franc-maçonnerie révolutionnaire. C'est tout à fait net, n'est-ce pas? Il était d'ailleurs un homme du député ultra-libéral, ultra-royaliste, Pavy. Hein? Bien. Bon, voilà donc les choses. Et alors, cette association est créée en 1828, le 3 mars 1828, est créée donc cette société d'indication mutuelle. Elle ne va pas durer longtemps, elle va durer 7 jours. Parce que très vite, il y aura des conflits, il y aura des discussions. Et c'est le 28 juin 1828 que le mutualisme va apparaître. L'organisation mutuelle, qui est fondée par une quarantaine de maîtres de chefs d'atelier, et à côté de Charnier, je crois qu'il faut se souvenir des noms de Falconet, de Bouvry, de Masson Cibu, n'est-ce pas? Ils sont nombreux, n'est-ce pas, qui ont travaillé à constituer cette organisation qui tourne la loi qui interdit les associations de plus de 20 personnes. En se fractionnant en groupe de 19 personnes, qui envoient 19 représentants à l'étage supérieur, et ainsi de suite, et qui crée véritablement une structure pyramidale dont l'action va être évidemment extrêmement précieuse dans les moments difficiles. Donc au départ, il y a plusieurs objectifs, mais il y a entre autres, n'est-ce pas, l'objectif de défendre le salaire. On s'entraide, on se refile un certain nombre de trucs de tissage, on cède dans la misère, c'est ce que ça devient, ce qu'on appelle ça par là, le devoir mutuel. Devoir mutuel, c'est solidarité. Hein? Je crois que c'est ça qui est important. Et là-dessus, voilà qu'arrive la révolution de 1830. Et cette révolution de 1830, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a appelé les ouvriers à descendre dans la rue. Et ce sont les marchands-fabricants qui ont appelé à ça. C'est cette bourgeoisie qui voulait en finir avec le déséquilibre de la société de la période de la Restauration, voire Balzac, n'est-ce pas, éloigner l'aristocratie définitivement, dont la base essentielle, c'était quand même la propriété foncière, c'était la domination et rurale, même s'ils avaient une vie urbaine, et c'est la poussée d'un monde nouveau, d'une bourgeoisie. Et cette bourgeoisie va s'appuyer, effectivement, enfin, 1830, signataire de l'appel à la grève, hein, de la presse, justement, on en parlait. c'était pas parlé à ce moment-là, c'est la presse écrite. Mais l'homme qui, contre les ordonnances, demande aux travailleurs, avec d'autres, bien sûr, de partir en grève, c'est Thiers, en 1830. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand on lit, par exemple, dans Le Précurseur, le journal, le 26 septembre 1830, on les couvre de pommade, le journal de la bonne bourgeoisie libérale. Ce sont les classes inférieures qui ont fait la révolution. Nos bons, nos excellents ouvriers, n'obéissant qu'à leur propre impulsion, aucun chef ne peut revendiquer l'honneur de leurs actions. Bon, on les a appelés à manifester. Ils sont descendus. Ils espèrent avoir, la compensation. Or, se déclenche une crise formidable, parce que justement, la révolution de 1830 a inquiété cette bourgeoisie, qui est consommatrice pour l'essentiel de ses produits. Alors il y a une période de marasme, et l'hiver 1830 1831 est un hiver terrible. On crève de faim, de froid, parce qu'il n'y a pas de travail. Et alors, commence à y avoir des idées qui courent sur les arbres de la Croix-Rousse. On trouve des pancartes. Nous avons des. Nous ne croyons plus à la vertu des trois couleurs, c'est-à-dire au drapeau tricolore restauré par la Révolution de 1830. Nous avons des fusils. Qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, vous voyez, constamment, il y a déjà ceci qui apparaît. Bon, nous avons des fusils. Il y avait beaucoup de chefs d'atelier qui avaient un niveau suffisant pour entrer dans la garde nationale. C'est pas eux, en général, qui vont tenir les fusils. C'est surtout leurs compagnons. Mais c'est eux qui vont être un peu la tête pensante au départ. Et alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se produit? Bon, des idées nouvelles en sont apparues aussi. C'est le début du socialisme utopique. C'est le début de missions saint-simoniennes qui lance des idées de l'existence des classes sociales, qui lance des idées d'organisation de l'industrie. C'est souvent d'ailleurs exprimé de façon assez absconce. Mais les travailleurs sont nombreux qui assistent à cela. Et ils retiennent un certain nombre de formules. Et c'est ça aussi qui va nourrir la possibilité d'un mouvement insurrectionnel. Alors, la façon dont ça démarre, c'est très simple, n'est-ce pas? Ils vont procéder démocratiquement. 1830, ça a été une révolution de type démocratique. Et bon, justement, ça a été aussi pour la liberté de la presse. Ils vont faire leur journal. Et c'est l'écho de la fabrique. Et l'écho de la fabrique paraît au moment même... D'ailleurs, l'initiative vient... du devoir mutuel, de militants du devoir mutuel, mais qui font à côté hein, de ce qu'on pourrait appeler l'organisation syndicale, entre guillemets, parce qu'elle va se muer un peu en organisation syndicale. Et à partir de là, alors, ils vont faire avancer la revendication d'un tarif, c'est-à-dire reprendre une vieille revendication qui était déjà apparue dès 1786 dans un premier grand mouvement insurrectionnel de Canut pour des questions de salaire, la révolte des dessous, et ils vont établir et faire élire une liste, hein, une liste, voilà, la photocopie d'un document qui est un document manuscrit où il y a toute la liste, n'est-ce pas, des gens qui vont aller trouver le préfet et qui vont revendiquer une négociation et finalement un accord sous le contrôle du préfet. Et alors ce qui se produit, hein, bon, c'est bien connu, il va y avoir acceptation forcée des délégués que le préfet Bouvier du Molard a contraint les fabricants à nommer. Il va y avoir cette rencontre, des pourparlers qui traînent, des pourparlers qui durent. Et puis finalement, pour faire avancer les choses, ça va être cette formidable démonstration du 25 octobre 1831, organisée d'une façon admirable, les Canuts et les compagnons descendent, selon un aspect presque militaire, parce qu'ils sont encadrés de responsables, viennent se masser en silence devant la préfecture qui était à ce moment-là place des Jacobins, et vont inquiéter à ce point les négociateurs patronaux que ceux-ci vont signer le tarif. Seulement rapidement, et on remonte, c'est la joie, c'est la victoire. Seulement très rapidement, dans les jours qui suivent, on s'aperçoit que les marchands fabricants refusent absolument l'application de ce tarif,
en fait.
Absolument. Hein? Et alors, à ce moment-là, le ton monte, parce qu'en plus, quelquefois, des menaces viennent de ce monde, y compris revolver au poing. Il y a un marchand fabricant, Olivier, n'est-ce pas, qui reçoit revolver au poing une délégation qui vient lui demander de faire travailler au tarif. Et le problème va éclater, l'insurrection éclate de la façon la plus spontanée, mais le spontanéisme ne fait pas tout. Il y a eu toute l'organisation, il y a eu tout ce qui s'est déroulé avant. Bon,
on va peut-être faire une pause musicale avant de revenir à la manifestation proprement dite.
C'est à ce moment-là que va partir l'insurrection.
passe plus sur les ponts, on n'a pas de nouvelles. Pas de médecin, nous soupons de froid dans les ruelles, de froid dans les ruelles. On s'embusque dans les églises où chantent les antiennes. Ce n'est pas le temps des cerises, mais il faudra qu'ils viennent,
mais il faudra qu'ils viennent.
Le fusil contre le canon,
saillant qui se soulève, puisque nos chefs n'ont pas de nom,
facile est la relève,
facile est la relève.
Le roi, le bourgeois fabricant,
ont vanté la misère, ils croyaient se reposer quand
leur loi ils imposaient,
leur loi ils imposaient.
Femmes remplissées des cartouches,
cassées d'état de guerre, le pain mangé quand on se couche
à le bout de la terre,
à le bout de la terre.
Qu'à se le drapeau noir,
c'est ta triste bannière, pensons que la trame du soir
est ta chaîne dernière,
et ta chaîne dernière.
Salut habitants des campagnes,
bonjour, adieu, j'espère, si ce n'est le bien qui gagne,
c'est ta vie qu'on enterre.
C'est ta vie qu'on enterre.
Le fusil contre le canon,
saignant qui se soulève, puisque nos chefs n'ont pas de nom, facile est la relève, facile est la relève.
Chanson des Canuts par André Tavernier avec cœur. Nous voilà au cœur de la révolte.
Oui, alors, comment éclate cette insurrection le 21 novembre? Il y a beaucoup d'agitation à la sur le plateau. Les compagnons se sont organisés à côté et eux ils décident donc la grève, l'arrêt du travail partout. Bon, il y a toute une série de d'accrochages aux barrières qui sont les barrières de l'octroi. Avec la garde nationale qui a été envoyée. Et la garde nationale, il faut dire que ce sont les gens armés qui appartiennent à la première légion de la garde nationale. Et cette première légion de la garde nationale, il se trouve que ce sont justement les marchands fabricants qui habitent le bas des pentes de la Croix-Rousse. Bon. Donc il y a des horions qui sont échangés, et puis on part pour refaire la grande manifestation, comme celle du 25 octobre, on va descendre en ville, on va manifester pour réclamer le tarif. Seulement, justement, un peloton de la première légion, qui a été d'ailleurs quelque peu secoué déjà, attend au niveau de la rue René-Léno, qui est la rue Vieille-Monnaie actuelle, et descendent les Canuts, avec effectivement le fameux drapeau. Le drapeau noir, vivant, travaillant, mourant, combattant. La formule étant venue, paraît-il, d'un nommé Roman, qui a écrit des mémoires aussi, et il prétend que c'est lui. Bon, passons. En tout cas, ils sont reçus par une décharge de peloton de la garde nationale, et c'est à partir de là que l'insurrection éclate. Elle n'a pas été voulue par les Canuts, ils l'ont subie, mais à partir de ce moment-là, la Croix-Rousse va devenir une forteresse. Et bon, dans les dernières versions de mes Canuts, là, j'ai reproduit le journal tenu par un de ces soldats qui raconte cette bataille avec un acharnement terrible, et surtout qui dit avec beaucoup de naïveté les horreurs qui sont faites par les soldats. Car bon, il raconte comment, par exemple, dans la nuit du 21 au 22, il y a un jeune. Bon, il dit qu'il a 12 ans, et il avait sans doute de plus, mais les enfants portaient déjà la marque de leur exploitation, y compris dans leur taille, et en particulier dans leur taille. Bon, qui avait le bras cassé, qui était tombé dans la lutte. Et au moment, avant de partir, compte tenu qu'il y a une pression qui s'exerce par les Canuts qui ont reçu des renforts, eh bien bon, on lui fait sauter la tête, on lui balance un coup de fusil dans la tête. Enfin, il raconte ça d'une façon très naturel, hein. Bon, comme si ça allait de soi. Bon, ça va durer le 21, le 22, le 23. Et le 23, la ville est entre les mains des travailleurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut lire en particulier les lettres du procureur du plan qui n'en revient pas. La ville, il n'y a pas de pillage. Mieux, les pillards, on en a exécuté, qui essayaient de s'emparer des biens d'un marchand fabricant, vis-à-vis desquels on exerce on le frappe d'une certaine répression. On va détruire une partie de ses meubles. Parce qu'il a donné sa maison, en face du pont Morand, aux soldats qui tiraient sur le peuple. Bon, mais on n'est pas des voleurs. C'est tout à fait remarquable, d'ailleurs. Et alors, bien entendu, par la suite, le préfet qui a laissé faire ça... se présente comme le père des travailleurs, et c'est vrai que l'insurrection aboutit dans une impasse. Il ne peut pas y avoir de révolution ouvrière dans une ville où, à cette époque-là, plus de 80% de la population est rurale encore. Hein. Bon, et ils sont isolés, et le 13 décembre, ils vont être obligés d'accepter le retour de l'armée avec le fils de Louis-Philippe, qui est le gant de velours. Mais le maréchal
Pujol,
Marmont, qui arrive, je me souviens plus du nom de ce maréchal, Soult, c'est Soult, qui arrive et qui, lui, va pratiquer la répression. Alors, suppression, bien entendu, on pouvait s'y attendre, du tarif, remplacé par une mercuriale qui constate seulement les prix. Mais, un certain nombre de choses survivront. L'écho de la fabrique va encore survivre. Il disparaîtra plus tard. Et à partir de ce moment-là, des enseignements déjà sont déjà apparus. Et à partir de là aussi, un formidable retentissement dans la France, dans l'Europe déjà. C'est la première grande insurrection ouvrière. Et une bonne partie de l'élite intellectuelle française... manifestera sa sympathie vis-à-vis de ça. Je parle par exemple, à Marceline Desbordes-Valmore, qui a écrit un poème bouleversant sur ces choses-là, Liszt, qui a composé, enfin, bref, y compris Balzac, qui dans La Maison de Nucingen évoque cette insurrection un peu par le biais, mais vous voyez à quel point ça a frappé véritablement la population et dans ces niveaux élevés. Alors bon, simplement un bilan. Hein, il y a 89 morts, 254 blessés au cours de ces 3 jours. Bien, ce qui est relativement modéré par rapport à ce qu'il y aura en 1834.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille, les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui sans souffrir il meurt rêveur. Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortons d'on ne sait pas où. Toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille, que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux. Les autres martèlent l'enclume et ça saoule pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots. Mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Marc Augeret qui nous interprétait La Canaille, une chanson de 1871, un petit peu postérieure à la période qui nous intéresse, mais l'esprit y est bien. 1831 et une révolte, et 1834, trois ans à
oui,
peine après, une autre révolte.
À propos de la chanson L'esprit y est bien, parce qu'il y a déjà les mêmes hommes en place, il y a Thiers. Et Thiers, à ce moment-là, va devenir ministre de l'Intérieur après la mort de Casimir Perier, c'est lui qui est ministre de l'Intérieur. Et on a mis en place un préfet à Poigne, c'est Gasparin. Il a remplacé le préfet précédent, qui a donc voulu négocier, et qui a fait preuve de faiblesse, parce qu'on ne négocie pas avec des ouvriers en insurrection. Avec des ouvriers qui veulent d'ailleurs imposer leur point de vue. D'ailleurs, c'est contraire, selon les règles de l'époque, à la vie économique. La vie économique ne doit pas subir de pression. Le salaire doit se faire entre des hommes égaux, le patron et l'ouvrier, ils sont égaux dans la vision qu'est donnée. Ce sont deux hommes en tête à tête qui s'entendent sur un contrat.
Est-ce que ça a beaucoup changé, sans vouloir épiloguer sur la question?
C'est-à-dire que ça a évolué sous l'action du mouvement ouvrier qui a imposé un certain nombre des contrats. Mais je pense qu'en regardant le monde actuel, on peut constater que les conquêtes et les avancées qui peuvent être réalisées à certains moments ne sont pas éternelles, surtout quand la crise offre des possibilités de récupérer, parce qu'il faut que tout le monde souffre de la crise. Il y en a qui souffrent plus que d'autres, il y en a qui sont plus égaux que d'autres en face de la crise, c'était bien évident. Bon, en tout cas, ce qui reste, c'est quand même à la fois cette idée, les trois glorieuses du prolétariat. Bon. Il y a un retentissement extraordinaire. Ce qui reste, c'est aussi le journal. Parce que, à cette époque-là, bon, encore, on ne veut pas le supprimer, le journal. Bon, il y a eu quand même la bataille pour la liberté de la presse. Et l'écho de la fabrique va s'enhardir de plus en plus. C'est passionnant de suivre, dans l'expansion des rubriques, le retour, on se met à reparler de Robespierre. On se met à parler, puis finalement, on parle de ce qui se passe à Paris, de la montée, c'est la période de Blanqui commence, l'insurrectionnalisme de Blanqui, et ça c'est quelque chose d'important. Et effectivement, on n'a pas renoncé à la grève. Et la 1834, ça va être la conjonction du devoir mutuel et puis des compagnons férandiniers. Ses compagnons férandiniers, en 1832, au mois de février 1832, ont constitué leur propre organisation. Et il y a une sorte de partenariat, je parlais le bloc du travail contre le bloc du capital, c'est ça, une entente entre les compagnons et les chefs d'atelier, puisqu'ils partagent le salaire, et que le salaire est donné par ceux d'en face. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, n'est-ce pas, c'est que il y a donc toute une série de procès qui sont lancés contre les férandiniers, contre le devoir mutuel, pour délit de grève, délit de coalition, comme on disait à cette époque-là. Et au mois d'avril 1834, si effectivement on voit seulement les choses de l'extérieur, enfin, comme les voyaient, c'est les canuts, bon, on peut dire c'est le résultat d'un conflit social. Moi, je dis que le conflit social, il a été préparé. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai lu les papiers Gasparin. Papiers Gasparin, il y a une correspondance précisément avec Thiers, qui est quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'objectif de Thiers, c'est d'en finir avec la possibilité de créer ces organisations. C'est d'en finir aussi, évidemment, avec la pugnacité des ouvriers lyonnais. Et Gasparin, qui a été appelé, là, il a été appelé pour casser ces choses-là. Alors, rapidement, rapidement, parce que ça passe, qu'est-ce qui se produit? C'est au cours d'un procès, le 9 avril 1834, procès justement de Ferrandinier et de gens du devoir mutuel, que va éclater cette insurrection. Elle est éclatée de façon provoquée. D'ailleurs, une sorte de journal des compagnons Ferrandinier déposé, un journal manuscrit qui raconte les choses, qui déposé à la maison des Canuts, que j'ai eu l'occasion de pouvoir consulter, évoque ceci. Mais Joseph Benoît, Canu de l'époque, devenu en 1848 député, premier député communiste, c'était le nom qu'il avait pris, de 1848, ouvrier, élu au suffrage universel à Lyon, sur un scrutin de liste, et raconte que dans une commission, il s'est trouvé avec Chegaray, qui était le procureur général de l'époque à Lyon, et que Chegaray lui a dit carrément. Il lui a dit oui, bien sûr. Et quand on connaît le détail des choses, c'était net. Une barricade s'était dressée, effectivement. Pendant, il y avait une mobilisation de la police formidable, une pression militaire, pas police, militaire formidable, dans le centre de la ville, parce qu'à ce moment-là, ça ne déroule pas, ça n'éclate pas à la Croix-Rousse, ça éclate exactement dans le centre de la ville. Et il y a là, dans le quartier qui est le quartier autour de la place des Jacobins et vers pour l'essentiel autour de la préfecture qui était donc dans le quartier des Jacobins, ça éclate au départ donc à côté de Saint-Jean, la barricade est à côté de Saint-Jean, elle est au débouché de la rue Saint-Jean, et là il y a un incident, et l'incident il vient d'un policier, et à partir de ce moment-là, la ville qui est mise en état de siège littéralement, ça va être une bataille qui va durer pratiquement près d'une semaine et qui va s'étendre à la Guillotière et à Vèze. Et à Vèze, il y aura le fameux massacre près de la rue de la Pyramide, dans une maison de 47 personnes qui ne participent pas à l'insurrection, mais par une soldatesque rendue folle, qui rentrait d'Algérie, qui avait opéré en Algérie au moment de la conquête de l'Algérie en 1831, tirait sur les gens. Bon, il y a tout un tas de rapports donnés en les comparant à des Algériens, à des indigènes algériens. C'est extraordinaire. Bon, il y aura un retentissement formidable à Paris. Puisque le massacre de la rue Transnonain dans Daumier a fait une lithographie extraordinaire, n'est-ce pas, a lieu quelques jours après le massacre de Vèze. Parce que pourquoi? Parce que à ce moment-là, s'est développé, au-delà de la solidarité professionnelle, syndicale, locale, une solidarité républicaine. Les organisations secrètes républicaines, qui sont aussi victimes de la hiérarchie du pouvoir, eh bien, ont établi déjà un certain nombre de réseaux qui fait que ça va retentir sous la forme d'une insurrection vite écrasée, d'ailleurs, par des républicains, mais aussi un mouvement qui éclate à Besançon. Enfin, il y a des choses nouvelles qui commencent à apparaître. Il y a effectivement une politisation, mais une politisation tout à fait normale, qui découle de l'attitude de la monarchie, et qu'il a pas tenu ses promesses. Et ces ouvriers se sont radicalisés à partir de ce moment-là. Alors là, évidemment, l'armée, c'est beaucoup plus sévère. 89 morts en 1831, 277 en avril 34, les blessés 254, 447 en 34. Et le canon va donner. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr... c'est le début. Ce sera terminé, d'ailleurs, la liquidation des Canuts en 1848. En 1849, l'insurrection de juin 1849, uniquement dans Lyon, d'ailleurs, hein, eh bien, elle sera, elle marquera la pire des répressions. Et vraiment dans une.
Chantez les créateurs, il faut une chasuble d'or.
Voilà, je crois qu'il faut que l'on mette un terme maintenant à cette émission. Nous avons dépassé notre horaire. En conclusion, peut-être rappeler les livres que Maurice Moussonnier a écrit concernant le sujet des canuts.
Il y a un livre En travaillant, mourir en combattant aux éditions sociales de 1984. Je trouve aussi les Confessions d'un prolétaire. Il vient de l'évoquer. Confessions d'un prolétaire, Joseph Benoît, son note et présentation. Ça, c'est aux éditions sociales également, mais avec, en collaboration avec Jean Nicot, en 1968. Et puis on dira aussi, et voilà, une date symbolique, et on dira aussi que...
C'est sorti en plein mai 68, c'était préparé.
Que Maurice Moissonnier a également participé, ou même lui-même rédigé des ouvrages sur la France ouvrière, 1871.
Non, c'est
1971.
Oui, c'est 18e siècle.
Quand il chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, se vise en claque. Quand les cons se redisent, qu'ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Le fascisme avance en même mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque. Le temps s'en va, on se bise en claque. à son enfant quand un humain s'enflamme, c'est Bistanclac. C'est pas de la rengaine à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistanclac. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque. Bistanclac.